section de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Prague. Au sommaire de cette émission préparée pour vous par la rédaction française, une rencontre avec Věra Cajzová ou Vera Kaïs, la réalisatrice française d'origine tchèque a adapté au cinéma le fameux livre de Bohumil Hrabal, Une trop bruyante solitude. Et nous en parlera dans un instant au micro d'Anne-Claire Veluire. Ensuite, dans le tchèque du bout de la langue, Guillaume Narguer reviendra sur les mots et petites phrases prononcées par l'ancien président et dramaturge Václav Havel. Enfin, dans le magazine littéraire de Radio Prague, Václav Richter vous présentera l'ouvrage intitulé « L'homosexualité dans l'histoire de la culture tchèque » et sorti en 2011 aux éditions Academia. Retour maintenant sur l'incroyable histoire du film de la réalisatrice française d'origine tchèque Věra Kaïs, « Une trop bruyante solitude ». Adapté du livre éponyme de Bohumil Hrabal, ce premier long-métrage de la réalisatrice a été tourné à Prague en 1993, mais n'est sorti qu'en novembre dernier sur les écrans français, le résultat d'une vingtaine d'années de batailles juridiques pour récupérer les droits de son film côté français. Dans le film de Věra Kaïs, on retrouve une pléiade d'acteurs français et tchèques, parmi lesquels, évidemment, le rôle principal, interprété par Philippe Noiret, mais aussi Jean-Claude Dreyfus, Chantal Neuwirth, et côté tchèque, le réalisateur Jiří Menzel et même Bohumil Hrabal lui-même. Anne-Claire Veluire s'est entretenue avec Věra Kaïs lors de son passage à Prague fin 2011.
Culture sans frontières.
Alors Noiret, je l'avais écrit pour lui. Son agent m'avait dit qu'il ne fera pas le film. Donc j'ai écrit, je me suis dit, bon, si Noiret ne le fera pas, donc je pensais à Peter Falk, je suis allé à Hollywood. J'ai écrit, j'ai enlevé le scénario à Hollywood. Tout de suite, j'ai reçu 15 jours après la réponse. Il voulait, Peter Falk voulait produire le film. Mais moi, j'étais pas du tout prête. Il y avait une réunion production et moi j'étais comme Alice au Pays de Merveille, première fois aux États-Unis, toute contente de rencontrer Peter Falk. Et j'avais rien préparé, je savais pas. Il me demandait combien d'argent je vais, combien de caméras, combien d'équipes. Et moi je suis allé rencontrer l'acteur principal. Donc c'était un flop. Quand je suis arrivé, c'était la limousine, you are the best. Et pour retour, c'est Peter Falk qui m'aurait pas donné de l'argent pour le taxi. Aller à l'aéroport, je serais resté aux États-Unis parce que je suis venu. À l'époque, il n'y avait pas les cartes bleues encore. J'avais un chéquier, mais français, je pense, ça marchait pas. J'avais dans la poche peut-être 10 dollars. Donc, si le Peter Falk m'aurait pas donné de l'argent. Après quelques années, comme j'avais fait beaucoup de casting, les comédiennes me demandaient quand je ferai le film, parce que je racontais toujours que je tournerai Une trop bruyante solitude. Et j'ai raconté à une comédienne, André Torrent, un comédien français que j'aime beaucoup, je lui ai raconté que l'agent de Noiret m'a dit que c'est Noiret le sait. Il me dit, oh, et quelquefois les agents ne font pas lire. Donc il s'est proposé de lui passer le scénario, il le connaissait bien. Au bout d'un an, je crois, Noiret m'a téléphoné en me disant, voilà, je veux bien faire le film. Jean-Claude Dreyfus, je le connaissais, j'ai travaillé avec lui plusieurs fois. Chantal Neuwirth, pareil, je l'adorais, je l'avais vu jouer au théâtre. Et puis quand je suis arrivé à Prague pour faire le casting, je crois que tous les comédiens célèbres ici, ils étaient enchantés déjà, tourner dans Hrabal, rencontrer Noiret. J'avais casting formidable, les décors, les gens, décorateurs, Martin Courel, formidable, les costumes, Tatiana Kovářiková, formidable. J'avais une équipe technique, formidable.
Et donc ça a été tourné ici à Prague, dans les studios Barrandov?
Non, à Hostivař.
Pendant combien de temps? Comment s'est passé le tournage?
J'ai une petite anecdote absolument formidable. Je voulais un petit peu lutter contre le cinéma américain, contre la... Ça venait dans le montage, le gros plan sur gros plan, le mystère, vous voyez, le robinet qui goûte, la goutte qui tombe, enfin. Et moi, je voulais faire un film, un peu plus film séquence. Et donc, nous avons tourné avec Brodsky et Noiret une scène dans la cuisine de, qui joue l'oncle dans le film. Et ils sont assis tous les dans la cuisine. Et j'ai mis caméra en face et je tournais un plan séquence. Et donc, Noiret parlait en français, Brodsky en tchèque. Ils ne se comprenaient pas. On l'a tourné une fois. C'était impeccable. Et quand la scène était finie, Noiret embrassait la main de Brodsky en disant « Vous êtes monsieur l'acteur ». Il y avait une sorte de... Il y avait une sorte de... Je ne sais pas si je peux l'appeler de magie. Il y avait une sorte de harmonie. En dehors de producteur français, il y avait une sorte de harmonie sur le plateau.
D'accord. Vous aviez déjà un petit peu la pression du côté des producteurs français ou pas? Vous étiez
oui,
au Mans,
oui. Ils ont fait une grande injustice vis-à-vis un caméraman tchèque qui s'appelle Jiří Macák, avec qui nous avons préparé le film. Là, j'étais malheureusement naïf. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas l'employer. Et moi, j'ai dit pourquoi. Nous avions une collaboration, nous avons préparé le film ensemble, c'était formidable. C'était... un homme raffiné, intelligent, grand caméraman, vraiment. Nous avons fait la préparation, nous avons préparé la scène par scène, le film. Et juste une semaine avant le tournage, on me dit qu'il ne peut pas rester dans le film. Donc, moi, je combattais pour lui. Lui m'avait dit, écoute, c'est pour toi, c'est important faire le film, accepte qu'on me change. Donc j'avais appelé mon ex-mari qui était directeur de la photographie en Italie, qui devait travailler sur un film américain qui est venu en dernière minute. Alors je crois qu'il y avait une sorte de combine, ils ont voulu me... Je crois que le producteur voulait m'enlever le film. J'ai appris après, c'est Karel Kachinia qui m'avait dit des choses... Enfin bon, je ne vais pas trop revenir dessus parce que c'était des choses un peu de trahison, tout ça... J'avais senti, quand vous faites un film, normalement, vous signez le soir une liste de choses. Et si elles ne sont pas prêtes le lendemain, vous avez droit de ne pas tourner. Quand vous faites le premier film, vous acceptez, parce que c'est beaucoup d'argent. Moi, c'était mon premier film. Donc il y a une clause, quand vous faites le premier film, que si vous êtes incapable de réaliser le film, que quelqu'un d'autre puisse vous en remplacer. Et moi, j'avais senti le danger. Bon, je crois qu'il y avait déjà mon producteur français à préparer quelqu'un d'autre pour tourner le film. Mais j'ai senti le danger, donc j'ai accepté certains compromis. Noiret m'avait soutenu et l'équipe m'avait soutenu. Donc c'était vraiment un combat. C'est le combat de ma vie depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 31 ans.
Alors, le film est enfin sorti en France. Est-ce que vous avez un petit peu des échos et puis de voir un petit peu si... Alors, j'imagine qu'il n'est pas distribué dans toutes les grandes salles de France, mais un peu quelle est la réception du film?
J'ai un petit distributeur que j'adore, Cinéma Hackathon, qui est à côté de la Sorbonne à Paris. Et c'est des gens, je leur suis reconnaissante parce que Kazi Genchel, qui est propriétaire du cinéma Hackathon, a trouvé une copie. Moi, j'avais rien, j'avais pas de film. Il a trouvé la copie de ce film qui traînait je sais pas où. Il avait regardé le film, il a aimé, il m'a retrouvé, il m'a dit j'ai copie de votre film. Donc, c'était avant que je gagne les droits. Cette copie nous a aidés parce que quand j'ai reconstitué le film pour la version française, il nous manquait une minute de son, il nous manquait par-ci des choses. Donc nous avons pris de cette copie qui était déjà abîmée certaines images, par exemple le générique de début, on a fait des tricages pour la fameuse... C'était... Donc, par fidélité, je me suis adressé à eux, ils ont sorti le film, donc dans un cinéma à Paris. Et puis là, ça commence... Alors, il y avait énormément... J'étais très surprise parce que c'est un distributeur qui n'a pas beaucoup d'argent. J'avais cherché un sponsor. Je ne suis pas très doué, peut-être. Je n'ai pas trouvé. Donc, nous avons fait un peu d'affiches, pas beaucoup. À la première, il y a, je ne sais pas, 200 personnes qui sont venues. La salle, elle a 120 personnes. Les gens n'ont pas pu rentrer. Il faut que je remercie le Musée national de la photographie tchèque qui nous a prêté une exposition sur Bohumil Hrabal. Et des amis de Bohumil Hrabal qui tiennent une société qui s'appelle Gastrohroch. On amenait la nourriture pour 300 personnes. Donc c'était une grande fête. Et c'était avant-première, enfin la première, disons, avant sortie officielle. Tous les journaux ont parlé de films. Que ce soit Figaro, Le Monde, en mal, en bien. Il y a des gens qui sont venus voir le film. J'ai assisté au débat, les gens adorent le film.
D'accord, alors vous m'avez dit que les journaux, beaucoup de journaux, tous les journaux en ont parlé. D'habitude, les cinéastes qui font un film, les réalisateurs ont un retour un an après avoir fini le tournage, ou un an et demi, je ne sais pas exactement combien de temps ça met. Là, vous l'avez tourné en 93. Donc ça fait bientôt 20 ans. Est-ce que c'est plus difficile ou plus facile de lire les critiques, et qu'elles soient bonnes ou mauvaises, 20 ans après, ou sur le moment, à votre avis?
Moi, au début, le film, je ne savais pas comment il était, si vous voulez. Je pense aussi que, à l'époque, il n'était pas bien perçu en République tchèque. Il y a une seule critique formidable de le grand critique, mais qu'il a écrit un an après la projection dans la revue Revolver. Le livre est sorti en République tchèque en 89. C'était déjà la... avant la révolution, etc. Puis les gens, après 89, ils avaient d'autres problèmes. Ils étaient habitués à d'autres tons dans les films de Hrabal, parce que le personnage de Hantia apparaît dans les premières nouvelles de Hrabal, et c'est un plaisantin, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de, il jette les chats dans la cave du chef, enfin, il fait beaucoup de, c'est une sorte de galopin. Dans Intro Brian Solitude, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui se réfléchit sur le monde. Donc le film a une autre tonalité qu'avaient d'habitude les films tchèques. Donc je pense que les gens étaient surpris par la tonalité du film. Puis le film parlait aussi, en dehors de réflexions sur le monde profond qui est dans tout le livre de Hrabal, le film parlait aussi de la condition des petits gens qui travaillent avec la passion et à qui on enlève la machine, la grosse machine, la productivité, la production, mange ces gens-là. Ils n'ont plus droit de... Ils ne tiennent pas le coup face aux grosses industries, etc. Et cette thématique n'était pas encore aussi pesante comme aujourd'hui. Donc je pense que peut-être le film a eu la chance d'avoir ces difficultés, parce qu'aujourd'hui, il est perçu différemment. Et moi, au début, on m'a dit tellement que c'est tellement bizarre, que c'est mauvais, que c'est... Alors, j'étais très dérouté, si vous voulez. Et puis, quand j'ai vu maintenant une réaction des gens qui aiment le film, ça m'est arrivé souvent, j'avais projeté le film dans les petits comités où les gens me connaissaient, où je parlais devant le film, et les gens aimaient le film, donc... Mais je n'étais pas du tout certaine, est-ce que c'est à cause de moi, par une sympathie pour moi, ou à cause des films. Et il y a des ans, il a été projeté hors compétition au Festival de cinéma à Trieste. Et c'est la première fois que j'étais assise dans la salle. Je n'ai pas parlé avant le film. Je devais parler après le film. Et derrière moi, c'était une très grande salle. Il y a 300 personnes, je crois. Je ne sais pas exactement, mais très grande salle qui était pleine. Et j'étais devant un public international, donc. Et donc j'étais assise au premier rang pour pouvoir parler. Et puis le film s'arrête, silence total dans la salle. Puis moi j'étais paniqué, je me suis dit ça y est, c'est la catastrophe. Et puis tout à coup les gens se sont levés, j'ai encore l'émotion aujourd'hui. Et applaudi, puis ils ont pleuré. Donc moi j'ai pleuré comme encore aujourd'hui, c'est ému. Et depuis, j'ai appris à aimer le film.
C'était la réalisatrice française d'origine tchèque Vera Kaïs dans Culture sans frontières. Elle répondait aux questions d'Anne-Claire Veluire. Place maintenant à notre rubrique bimensuelle consacrée à la découverte de la langue tchèque. «
le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Dans notre dernière émission, nous avions évoqué les mots ou petites phrases de Václav Havel restées gravées dans la mémoire des Tchèques et ainsi donc entrées dans l'histoire. Comme promis, nous allons approfondir le sujet en nous intéressant tout d'abord à un mot très particulier que l'on ne trouve dans aucun dictionnaire, mais qui est pourtant relativement usité pour faire référence à l'ancien président tchèque. Il s'agit du mot
« pravdoláskař ».
S'il ne fallait retenir que deux mots caractérisant le discours qui fut celui de Václav Havel pendant ses 13 années de présidence, ce serait sans aucun doute « vérité » et « amour ». Deux mots que nous avions bien entendu évoqués dans l'émission précédente en expliquant le sens de la phrase
« Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí ».
Soit « la vérité et l'amour doivent triompher de la haine et du mensonge », une phrase symbolique devenue slogan de la révolution de velours. Notons d'ailleurs à ce propos que si l'on qualifie de velours ou de douce, comme le faisaient à l'origine les Tchèques, la révolution qui a entraîné la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie en 1989, c'est entre autres parce que cet appel de Václav Havel à la non-violence pour installer la démocratie a été entendu et respecté. Plus tard, l'assemblage de ces deux mots,
pravda
et
láska,
a donné naissance à un autre mot,
pravdoláskař.
Difficilement traduisible en français, ce mot désigne une personne s'identifiant au sens profond de la célèbre citation de Václav Havel, selon laquelle donc la vérité et l'amour doivent triompher de la haine et du mensonge. Car bien encore, au-delà de l'appel à la non-violence lors des manifestations pacifiques de 1989, cette phrase était et reste aujourd'hui encore avant tout l'expression d'une vision du monde profondément humaniste, l'expression d'une conception philosophique qui place les valeurs humaines au-dessus de tout le reste. Les
pravdoláskaři
sont donc en quelque sorte des disciples de Václav Havel, des personnes qui ont adopté la doctrine de Václav Havel. C'est
pravdoláskaři,
qu'ils soient autoproclamés ou désignés comme tels par d'autres, sont généralement fiers de l'être. Pourtant, ce mot possède également une certaine connotation péjorative. Dans notre dernière émission, nous avions en effet évoqué la guéguerre idéologique ou la guerre des mots entre les deux Václav qui ont été jusqu'à présent les deux seuls présidents qu'ait connus la République tchèque, Václav Havel et Václav Klaus. Deux hommes qui ont été les deux grandes figures politiques marquantes de la période de vaste transformation de la société tchèque, notamment dans les années 1990. Deux hommes qui ne s'appréciaient pas spécialement, c'est le moins que l'on puisse dire, notamment parce que le philosophe Havel et l'économiste libéral Klaus avaient chacun une idée diamétralement opposée de la façon dont la société tchèque devait se transformer. Sans tomber dans la caricature, là où Havel prônait d'abord la mise en avant et le respect de certaines valeurs, Klaus, d'abord ministre des Finances, puis Premier ministre, préférait lui, par exemple, déclarer « Je ne connais pas d'argent qui soit sale ». Ce sont donc souvent les proches ou les partisans de Václav Klaus qui qualifient de
« pravdoláskaři »
tous ceux qui partagent les opinions de Václav Havel. Une manière pour eux de pointer du doigt ce qu'ils considèrent en quelque sorte comme des intellectuels naïfs, de doux rêveurs qui pensent encore qu'amour et vérité peuvent triompher dans ce monde ou qui ont fait leur ces quelques phrases de Václav Havel qui affirmait, pour paraphraser le poète latin Terence,
« Nic lidského mi není cizí. »
Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, ou encore
« Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. »
L'homme devrait se comporter comme il pense que les autres devraient se comporter. Un homme, Havel, dont la signature était toujours accompagnée d'un petit cœur et qui était également convaincu qu'un homme politique peut dire la vérité tout en vivant en paix avec sa conscience.
Domnívám se, že politik může říkat pravdu a žít v souladu se svým svědomím.
Que la meilleure voie menant à notre propre malheur est de fermer les yeux devant le malheur des autres.
Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat oči před neštěstím jiných.
Ou encore que l'espoir est un état d'esprit qui donne un sens à notre vie.
Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.
Un homme, enfin profondément amoureux des femmes, qui estimait que les femmes ont en elles quelque chose qui devrait se manifester en politique, une sensibilité pour une situation concrète, pour une personne concrète.
Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku.
C'est donc avec cette sensibilité propre aux femmes, à Václav Havel et aux
Pravdoláskaři,
plus généralement, que s'achève ce Tchèque du bout de la langue, confessons-le, un tantinet tendancieux. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj. Voilà, et après ce Tchèque du bout de la langue que nous vous avons présenté avec Guillaume Narguet, place à la littérature. Dans sa rubrique littéraire, Václav Richter vous présentera un ouvrage de Martin Putna consacré au phénomène de l'homosexualité dans la culture et notamment dans la création des artistes tchèques.
Rencontre littéraire. L'évolution des mœurs aidant, le lecteur tchèque dispose désormais d'un livre qui traite ouvertement d'un thème considéré jadis comme tabou. La monographie intitulée « L'homosexualité dans l'histoire de la culture tchèque », publiée par les éditions Academia en 2011, cherche à situer l'homosexualité dans son contexte culturel et à jeter un regard objectif sur un phénomène auquel la société réagissait jadis par la condamnation, le rejet ou le silence. Le livre est l'œuvre d'un collectif d'auteurs dirigé par l'historien de la littérature, Martin Putna, qui a rédigé également plusieurs articles essentiels de cette monographie. Il explique la genèse de cet ouvrage.
Le livre a vu le jour grâce à une conférence qui a été organisée en 2009 à la Faculté des sciences humaines de l'Université Charles. Et comme il arrive à ce genre de manifestation, on a eu l'idée de publier un recueil de travaux de cette conférence. Moi, qui n'aime pas ce genre de recueil, je me suis dit, puisqu'il y a ici tant de chercheurs de diverses disciplines qui s'occupent de ce thème, cela vaudrait la peine de publier quelque chose de plus substantiel. Et alors, j'ai eu l'idée de publier, au lieu d'un recueil de travaux, une véritable monographie collective, une véritable histoire de ce thème dans la culture tchèque.
Martin Putna s'est donc adressé aux participants à la conférence qui se sont montrés dans leur grande majorité favorables à cette idée et ont accepté de rédiger différents chapitres d'une monographie collective qui devrait couvrir, dans la mesure des possibilités et de l'état actuel des recherches, l'ensemble de l'histoire du thème de l'homosexualité dans la culture tchèque. Les auteurs du livre ne voulaient cependant pas nourrir la curiosité malsaine d'amateurs de sensations et de scandales. Martin Putna insiste sur un autre objectif du livre.
Ceux qui s'imaginent que ce livre est un annuaire téléphonique de noms et que nous avons cherché à révéler qui a été homosexuel, qui ne l'a pas été ou quels artistes nous considérons comme homosexuels seront terriblement déçus, car c'est justement l'inverse de l'objectif de nos recherches. Nous nous sommes intéressés à la création et non pas aux biographies.
Pour commencer, Martin Putna pose une question méthodologique. Sans trancher en faveur de telle ou telle méthode, il compare les deux approches différentes des chercheurs qui abordent cette problématique, l'essentialisme et le constructionnisme. Selon la conception essentialiste, l'essence de l'homosexualité a été toujours la même pendant toute l'histoire de l'humanité. Les partisans de la conception constructionniste estiment, au contraire, que l'homosexualité actuelle n'est qu'une des nombreuses formes de ce phénomène qui a changé et évolué au cours de l'histoire. Le livre se divise en trois parties. La première et la plus substantielle est consacrée à la littérature, la deuxième cherche à saisir le thème homosexuel dans les arts plastiques, et finalement la troisième couvre le domaine du théâtre et du cinéma. Dans une étude consacrée à la littérature, Martin Putna étudie la création homoérotique et trouve les motifs de ce genre dans les œuvres de nombreux hommes et femmes de lettres, dont les poètes Julius Zeyer et Otokar Březina, dans les livres pour enfants de l'écrivain Jaroslav Foglar, dans les romans angoissants de Ladislav Fuchs, et même dans les œuvres de Jaroslav Hašek, auteur du Brave soldat Švejk. Il distingue trois approches créatrices du thème, la sublimation, la stylisation et la manifestation. Dans la première catégorie, il y a des auteurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas parler de l'homosexualité et cherchent donc d'autres voies pour l'évoquer par la sublimation, l'allusion et le camouflage. Les auteurs de la deuxième catégorie évoquent le thème explicitement, mais situent ces manifestations par la voie de la stylisation dans le temps révolu pour le rendre plus acceptable. Et finalement, dans la troisième catégorie, la manifestation, il y a les auteurs qui parlent ouvertement de l'homosexualité et la situent dans le contexte actuel et civil. La monographie révèle que le thème de l'homosexualité dans la culture tchèque et ses manifestations dépendent beaucoup des influences étrangères. Dans la première moitié du XXe siècle, la culture tchèque est encore beaucoup liée avec les milieux culturels des pays de langue allemande. Par contre, dans la seconde moitié, et notamment vers la fin du XXe siècle, ce sont les influences anglo-américaines qui prédominent. Ces influences se manifestent également dans la réception et la perception de la thématique homosexuelle dans la littérature, les arts et la vie culturelle tchèque. Cependant, selon Martin Putna, la Tchécoslovaquie de cette période-là n'est pas un simple épigone des modèles occidentaux, et la façon dont elle reçoit l'homosexualité au niveau culturel ne manque pas de traits spécifiques.
Ve 20. století a konec konců někdy ve stoletích dřívějších.
Au XXe siècle et même dans les siècles précédents, nous trouvons un phénomène que j'appellerais le rebelle homosexuel, rebelle artiste et homosexuel, comme Pier Paolo Pasolini, Oscar Wilde, Michel Foucault, ou toute une série d'autres comme Klaus Mann, Rainer Werner Fassbinder. Il s'agit de personnalités provocatrices et souvent très gauchistes, révolutionnaires et parfois communistes. Aujourd'hui, nous les trouvons cependant plutôt parmi les verts et non parmi les communistes.
Martin Putna s'interroge donc pourquoi ce phénomène manque presque complètement dans la culture tchèque. D'après lui, au cours du XXe siècle, il n'y avait pas dans les pays de langue tchèque d'espace pour un phénomène de ce genre en raison des régimes totalitaires qui ne permettaient pas à des artistes et des penseurs homosexuels de s'exprimer. L'élément homosexuel s'est pourtant manifesté même dans le milieu tchèque, mais d'une façon moins spectaculaire et plus discrète.
Na druhé straně my máme pozoruhodnou galerii toho, čeho já říkám.
D'autre part, nous avons une galerie remarquable de ce que j'appelle conservateurs homosexuels. Ce sont des artistes qui, dans une certaine mesure, expriment plus ou moins ouvertement des sentiments homoérotiques et les traitent plus ou moins dans leurs œuvres. Ce sont cependant en même temps des gens d'orientation catholique, monarchiste, conservatrice, ruraliste. Et ces deux choses se marient chez eux. Cela ne doit pas être nécessairement que le catholicisme. C'est une longue tradition qui est très particulière et que je n'ai retrouvée dans aucune autre littérature européenne.
A kterou v žádné jiné evropské literatuře v podstatě jsem nenalezl.
Martin Putna donne un exemple, Jiří Langer, l'unique écrivain tchèque de langue hébraïque. Ce fervent de la région juive, profondément empreint du judaïsme hassidique, auteur entre autres du recueil de nouvelles mystiques sur les rabbins de Galicie intitulé « Les Neuf Portes », s'intéressait aussi à la tradition homosexuelle dans l'histoire juive et était lui-même auteur des poésies hébraïques d'inspiration homo-érotique. Le livre de presque 500 pages montre l'ampleur du phénomène sans avoir la prétention de le saisir dans son ensemble. Les auteurs de différents articles soulignent à plusieurs reprises que c'est la qualité artistique qui doit être le critère principal de l'appréciation des œuvres traitant le thème homosexuel. L'ouvrage illustre également le fait qu'après la révolution sexuelle et l'effondrement des tabous, le thème homosexuel perd peu à peu son caractère scandaleux, se dilue dans l'ensemble de la création et est accepté ou au moins toléré par l'ensemble des lecteurs et des amateurs des arts. Apostropher le grand public, c'est sans doute aussi l'ambition de nombreux artistes qui traitent ce thème. Dans ce contexte, Martin Putna cite l'écrivain français Dominique Fernandez, qui a écrit dans la préface pour l'anthologie des amours masculines de Michel Larivière. Quel plaisir y a-t-il à conquérir quelqu'un qui est du même bord que vous ? Ainsi, l'écrivain homosexuel n'est heureux, ne devrait être heureux, que lorsque ses livres charment et émeuvent les lecteurs de l'autre famille, au lieu de circuler exclusivement à l'intérieur du ghetto.
Chers éditeurs, c'est par cette rencontre littéraire que prend fin cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée par Magdalena Hrozinková. Bonne fin de week-end. Au revoir. Naslyšenou.
Radio Praga.